nous pouvons devenir ce que nous voulons être.
Oser être brillant, c'est se dire, ben non, je me suis assez préparée, ça suffit, maintenant je vais me montrer, maintenant je vais m'exposer.
Rêvez et vivez vos rêves jusqu'au bout. Vous n'avez aucune limite.
Bienvenue sur Shape Your Career, un podcast pour les femmes qui souhaitent prendre le contrôle de leur carrière professionnelle sans s'essouffler et qui œuvrent pour un monde professionnel plus égalitaire. Je te partage toutes ces compétences et ces clés pour t'aider à gravir les échelons de l'entreprise. Ce podcast va devenir ton meilleur allié pour booster ta carrière dans le respect de tes valeurs et de ton authenticité. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode réalisé en partenariat avec le groupe Engie et Engie North Africa sur la thématique « Les hommes alliés, véritable accélérateur au profit du développement professionnel des femmes, mais également au profit de l'égalité professionnelle ». Depuis plus de 10 ans, le groupe Engie mène une politique volontariste pour promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle femmes-hommes. Engie développe une politique de mixité et déploie des actions concrètes destinées à faire progresser les femmes au sein du groupe et les accompagner dans leur évolution de carrière. Dans cette nouvelle saison, je vous offre en partenariat avec Engie et Engie North Africa un triptyque passionnant et captivant qui met en lumière l'engagement et l'exemplarité des hommes et des femmes d'Engie œuvrant au quotidien au profit d'un monde professionnel plus égalitaire. Pour cette dernière partie du triptyque, je vais à la rencontre aujourd'hui de François-Xavier Boulle, Managing Director des énergies renouvelables MENA et Head of Business Development pour la région AMEA, et également Jonathan Debas, qui est Managing Director of Flexible Generation Africa, qui nous en diront plus sur l'importance du rôle des hommes en entreprise pour accompagner les femmes dans le développement de leur carrière professionnelle. Pour créer une culture inclusive en entreprise et offrir un espace d'échange où chaque individu, notamment les femmes, peuvent se sentir soutenues dans le développement de leur carrière et exprimer leur plein potentiel, les hommes ont un rôle important à jouer en tant qu'alliés. Pour développer cette culture, les hommes sont des catalyseurs pour opérer un changement de paradigme, notamment afin d'embrasser cette transition pour lutter contre les biais et stéréotypes qui sont parfois ancrés et qui peuvent impacter l'évolution de carrière des femmes. Je reçois sans plus tarder François-Xavier et Jonathan pour ce nouvel épisode. Bonjour François-Xavier, bonjour Jonathan. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui pour rejoindre le podcast Shape Your Career. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour Leïla, François-Xavier Boulle. En cours, ça fait FX, tout le monde m'appelle FX en fait, au sein d'Engie et dans le milieu professionnel. J'ai rejoint Engie environ 12 ans à Dubaï, en tant que dans l'équipe de financement de projet. J'ai évolué ensuite dans des responsabilités de business development. Je suis depuis mars 2020 responsable du business development pour l'activité renouvelable au sein de la région AMEA, Afrique, Moyen-Orient, Asie, et également managing director pour les renouvelables sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Merci François-Xavier. Donc vous m'autorisez à vous appeler AFIX alors pendant cette interview.
Absolument.
Merci. Jonathan, bonjour.
Bonjour Léla, Jonathan Debasque. Comme FX, je suis rentré chez Engie dans l'équipe de financement de projet en 2010 dans le secteur de l'eau. Et puis je suis passé au fur et à mesure des années dans l'énergie. Je suis maintenant basé à Johannesburg et depuis septembre 2021, je suis en charge des activités Flexible Generation pour Engie en Afrique. Donc ça couvre le Maroc principalement et l'Afrique du Sud.
Merci Jonathan. Merci pour ces introductions. Alors je vais démarrer par la première question sur notre thématique, le rôle des hommes en tant qu'alliés dans le développement de la carrière professionnelle des femmes. Comment définissez-vous le rôle des hommes en tant qu'alliés? Et d'une manière générale, quelles qualités ont ces alliés, selon vous?
Merci, Leïla. La question, en fait, elle est liée au fait que, historiquement, dans la société actuelle et par le passé, pour sûr, les hommes avaient une place prépondérante dans les sociétés, plus que majoritaire, hein, véritablement, quasiment à 100%, il y a plus d'une cinquantaine d'années et de plus en plus, effectivement, se réduisant, mais peut-être pas suffisamment. Donc, en tant qu'allié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, les hommes sont dans toutes les couches des sociétés, y compris au niveau décisionnel. Et donc, par là même, comme ils sont majoritaires au niveau décisionnel, ils doivent réfléchir à comment faire croître leur société. On fait croître une société, de mon point de vue, en ayant suffisamment de diversité. Et la diversité, on peut vraiment se poser la question, en fait, de comment on introduit cette diversité dans un système un peu stationnaire ou qui stagne, en fait. Donc, on doit avoir de la croissance. Et donc, quand on peut avoir de la croissance, on peut introduire de la diversité et ensuite fueler ce système où la diversité entraîne de la croissance, etc. Et donc, par là même, quand on est décisionnaire, qu'est-ce qu'on a en tête? On a effectivement de faire faire de la croissance à notre société, à notre système, et donc, par là même, logiquement, de mon point de vue en tout cas, introduire cette diversité, donc introduire également et donc, des femmes dans l'organigramme et à tous les niveaux de l'organigramme.
Merci François-Xavier. Jonathan, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose et nous en dire plus sur les qualités que ces alliés ont?
Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Fix a dit. Hein. Je vais juste ajouter quelques éléments de mon côté. Je pense que le rôle, pour parler à mon niveau, à notre niveau, notre rôle en tant qu'allié, on est des managers, on est des leaders d'organisation assez large. Et notre rôle, c'est d'aider à grandir aussi hein, nos collègues, nos employés. Et je pense qu'on a un travail particulier à faire auprès des femmes pour les aider à grandir et à trouver une place qui leur convient à elles-mêmes, en fait. Je pense que c'est là que je vois bien notre rôle, parce que les hommes s'identifient bien à leur manager. Ils ont rapidement une vision de ce qu'ils pourraient devenir, parce qu'en fait, en général, le chef est quelqu'un qui lui ressemble. Les femmes ont un peu plus de mal à faire ça, donc on est là peut-être pour les aider, leur dire que pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas ça?
Merci Jonathan. Et c'est un aspect effectivement qu'on couvrira plus tard dans notre échange. Et j'aimerais savoir plus particulièrement, à travers le programme 50-50 qui consiste à atteindre la mixité managériale à horizon 2030, mais aussi à travers la politique diversité, équité et inclusion du groupe Engie qui vise à garantir l'égalité des chances à ses collaborateurs et à ses collaboratrices en leur assurant d'évoluer justement dans un environnement de travail bienveillant. Comment est-ce que les hommes chez Engie sont impliqués dans le succès du déploiement d'un tel programme?
Je vais revenir pareillement à mon axe qui pour moi est primordial. C'est quand on parle de diversité, on parle de quoi? On parle de diversité culturelle, on parle de diversité de genre. Et qu'est-ce que ça apporte, en fait? C'est la véritable question qu'on doit se poser. Si on est tous pareils, si on pense tous de la même chose, si on se comporte tous de la même façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les mêmes erreurs, on va répéter ces mêmes erreurs sans véritablement de capacité à critiquer et à pouvoir ajuster. Donc, cette diversité, en fait, j'ai la chance d'être à Dubaï, moi personnellement, et au Moyen-Orient depuis 14-15 ans. On est ici dans un univers où la diversité est reine, en fait. Et on a la chance d'avoir un espèce de carrefour de culture. Et donc ça, on voit très bien qu'il y a un buzz avec ça. On voit très bien que ça fonctionne que ça fonctionne de façon efficace, que ça fonctionne de façon mécaniquement positive. Ça crée de l'innovation, ça crée de l'énergie, ça crée beaucoup de courants, de mon point de vue, positifs, en fait, qui sont très contributifs quand on parle ensuite de succès pour une société. Hein. Donc, cette diversité, elle est importante, et donc la diversité, elle va beaucoup plus loin que juste des cultures, elle va effectivement au niveau des genres. J'ai eu la chance aussi de travailler pendant 5 ans et demi dans une société qui s'appelle Tabrit, que Engie contrôle à 40%, où on a déjà plus de 40% de femmes au niveau de notre siège social de 200 personnes. On avait 41% de femmes déjà à l'époque. Je suis parti il y a déjà presque un an. Et c'était des femmes de différentes cultures également, des Émiratis, mais également des personnes de toutes cultures, à la fois occidentales, d'Asie et d'Afrique. Donc on avait vraiment à la croisée des chemins, on avait une société où on avait croisé de cultures. Et qui était très successful, en fait, qui délivrait parfaitement ses objectifs d'année en année. Donc, comment on fait pour y arriver? Je pense que si on a un œil sur les objectifs, on se donne les moyens de donner du carburant à ces objectifs, et ça fait partie, les gens, les talents font inévitablement partie de l'équation et donc de la diversité, donc des femmes.
Merci FX. Jonathan, est-ce que vous souhaitez compléter ?
Oui, je vais abonder un petit peu dans le sens de FX en ajoutant quelques éléments un peu plus concrets sur le programme 50-50. Bon, tout d'abord, je pense qu'il y a un point essentiel, hein, c'est qu'il faut être convaincu de la valeur ajoutée. Et je pense qu'il faut l'avoir vu pour en être convaincu. La diversité apporte de la valeur à la société, en fait. À la société elle-même, à l'équipe, au niveau plutôt micro. Et donc, il faut essayer de l'enrichir. Il faut essayer d'ajouter de la diversité à nos équipes. Et donc, les femmes apportent cette diversité-là. C'est une manière de penser différente qui va apporter un petit peu une manière de gérer les conflits différentes, etc. Mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Pour le programme 50-50, je pense que c'est assez intéressant de voir que le groupe s'est beaucoup focalisé là-dessus. Et il y a de nombreux trainings, en fait, qui ont été ajoutés pour pouvoir aider les femmes à grandir chez LG. Il y a du coaching, il y a du mentoring, mais à notre niveau, donc qui sont disponibles pour les femmes, mais à notre niveau en tant que manager, il y a aussi une partie de notre bonus, hein, typiquement, qui est impactée par notre capacité à recruter des nouvelles femmes dans nos équipes ou à les rendre dans des postes de seniorité plus importants. On se fait challenger au recrutement en général. On essaie de voir est-ce que typiquement on a intégré des femmes dans le pool de recrutement pour ce poste spécifique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une femme? Ce genre de questions-là qui avant n'étaient jamais sur la table, aujourd'hui rajoute un petit peu d'intérêt au process. Hein, à dire c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Est-ce que l'ajout d'une femme pourrait enrichir mon process, mon équipe? Et plus globalement, au niveau des géographies, on prend une photo à la fin de chaque année de voir est-ce qu'on a progressé dans nos objectifs de parité 50-50. Et je pense qu'en suivant ça au jour le jour, à chaque nouvelle étape, à chaque recrutement, à la fin de chaque année, ça va nous aider en fait à progresser plus rapidement vers cet objectif qui, encore une fois, ajoute de la valeur à la société et aux équipes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut poursuivre.
Merci à vous deux pour ces éclairages. Alors, j'aimerais me concentrer sur les biais et le poids des stéréotypes et des biais qui peuvent impacter à un moment donné l'évolution de carrière des femmes. Et ces biais sont définitivement des freins, des destructeurs de carrière que les femmes peuvent rencontrer dans le monde de l'entreprise. Que ces biais soient conscients ou inconscients, on peut parler du biais de la performance où les femmes vont être considérées comme moins compétentes que leurs homologues masculins. Et on va privilégier des hommes pour certains métiers techniques, physiques. On va privilégier des hommes. Le biais de la maternité aussi, qui est parfois ancré, où les gens vont peut-être penser qu'une jeune maman a d'autres priorités plutôt que de penser à sa carrière. Elle va vouloir privilégier sa maternité versus sa carrière. Donc, ces biais qui peuvent être parfois ancrés dans les mentalités et que l'on rencontre dans le monde de l'entreprise, peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'évolution de carrière des femmes. J'aimerais savoir, et pour revenir à ce que vous partagiez, Jonathan, par rapport au programme proposé au sein du groupe, pour faire avancer les choses, pour coacher également les managers, comment est-ce que vous agissez au quotidien pour lutter contre ces biais qui sont définitivement des destructeurs de carrière? Et comment contribuez-vous à ce changement de paradigme, que ce soit avec vos équipes, que ce soit avec vos supérieurs, le management, vos collègues? Si vous pouvez m'en dire plus par rapport à cet aspect-là, Jonathan.
Oui, bien sûr. Je peux en parler. Bon, j'ai une femme moi-même qui a eu des enfants et donc j'ai pu voir ça de près. Et je pense que le plus important pour pouvoir adresser correctement ce sujet, c'est la communication. Il faut parler avec les gens et il faut arrêter d'avoir des avis reçus et des avis tout faits sur ce que doit faire une maman, ce que doit faire un papa quand ils ont un nouvel enfant. Hein. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où les choses sont assez variées, hein, et pas obligatoire que la maman elle-même s'arrête de travailler pour pouvoir s'occuper du bébé, n'a plus envie de travailler tout simplement pour pouvoir s'occuper du bébé. Donc je pense qu'il faut essayer d'éviter ces raccourcis-là, et il faut mener cette discussion avec la future maman avant la naissance et éventuellement après, pour essayer de comprendre quelles sont les envies, quelle est la volonté d'équilibrer cette vie personnelle, professionnelle. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, enfin, dans une époque post-Covid, on a quand même énormément d'outils et on a eu un changement d'état d'esprit qui fait que le home working, travailler à la maison, travailler parfois à la maison, limiter les trajets, ça fait part de notre quotidien. Et donc, c'est plus seulement les jeunes mamans qui vont être celles qui vont demander à dire « bon, bah, finalement, je préfère travailler de la maison pour des raisons particulières ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils pour garder une performance très bonne pour toutes les catégories d'employés, y compris les jeunes mamans. Donc, limiter les pertes de temps en cas d'imprévu. C'est une évolution dans la manière dont on travaille et donc les mentalités doivent suivre. C'est un peu comme ça que je vois ça, moi. Et puis d'expérience, j'ai vu ça avec ma femme et avec des collègues. Je parle beaucoup de la maternité parce que c'est un sujet, je pense, qui est important. Mais j'ai vu beaucoup de mes collègues qui ont en fait changé de job avec la naissance d'un enfant. Et en fait, elles sont arrivées avec ce nouveau job, avec un enfant qui était en bas âge, mais avec un nouvel état d'esprit rafraîchi, avec beaucoup de volonté de le faire réussir, parce que c'est une étape importante, enfin, je pense, pour une femme, et qui peut apporter quelque chose de très intéressant à la société elle-même. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi une opportunité d'avoir une jeune maman dans les équipes. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur nos préjugés, mais surtout sur la communication.
Donc, la communication est clé. FX, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Le biais, il commence à la maison, en fait, si j'ose dire. C'est-à-dire que la façon dont on est dans un couple, chez soi, et dont on se comporte dans notre société au niveau personnel, déjà implique énormément ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire au travail, ce qu'on va faire dans le monde professionnel. Et je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, notamment quand on est manager au niveau de leadership, c'est la culture du résultat. Et effectivement, désormais, on a des outils modernes. Ce qui importe, c'est de réaliser le travail, d'avoir les résultats que l'on attend. Et je dirais presque, peu importe la forme et la présence nécessaire dans un local professionnel, au travail, au bureau, etc., ça n'est plus forcément 100% nécessaire. En tout cas, la majorité du travail aujourd'hui peut être délocalisé et effectué en télétravail, pas nécessairement de façon majoritaire. En tout cas, ça, c'est un autre débat, mais clairement. Donc, je pense que la culture des résultats, le biais qui commence à la maison, et donc d'en être conscient et d'appliquer au quotidien un regard critique sur ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi important de savoir. Je pense qu'avec la maturité qu'on peut acquérir au fil des années et au fil des expériences professionnelles, donne à réfléchir sur ce qu'on fait au quotidien, sur la place qu'on donne aux femmes dans le milieu professionnel et surtout à ignorer ces biais parce que, encore une fois, c'est la culture du résultat et c'est la complémentarité des gens au sein de nos équipes. Moi, quand je constitue une équipe, ce qui m'importe, c'est de complémenter les capacités des uns et des autres, les forces des uns et des autres, de façon à ce qu'on puisse avoir l'équipe la plus forte possible en réduisant les faiblesses des uns et des autres. Le genre et le milieu culturel influence quelque part ce sculpting, si vous voulez, des faiblesses pour avoir que ses forces. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est important de complémenter. Et donc, voilà, on arrive à donner une place aux femmes sans regarder, sans dire nécessairement que, OK, c'est une femme. En fait, je pense que c'est important de bien assimiler la personnalité de nos candidats quand on les interviewe, notamment.
Merci FX pour ces éléments et j'aimerais rebondir par rapport à la composition de vos équipes. Alors, on a évoqué les biais d'une manière générale que les gens peuvent avoir par rapport à certaines compétences, à certains traits de personnalité quand on parle des femmes, mais les femmes peuvent elles-mêmes avoir leurs propres biais, parce qu'elles ne se considèrent pas compétentes, à la hauteur, légitimes, parfois pour prendre des postes à responsabilité, pour gravir les échelons de l'entreprise. Alors j'aimerais savoir comment, en tant que manager, vous encouragez les femmes autour de vous qui peuvent avoir ces croyances limitantes, ces propres biais par rapport à certains métiers qui vont parfois être étiquetés comme masculins, ou tout simplement avoir peur d'accéder à des niveaux de responsabilité plus élevés. Comment est-ce que vous les accompagnez et vous les encouragez ?
Oui, bien sûr. En fait, on a fait, je pense que Fix l'a peut-être fait également, on a fait une formation assez longue sur justement pour travailler sur les biais. Et en effet, il y a des biais chez les hommes, mais des biais également chez les femmes. Et il faut essayer de travailler sur les deux. Pour pouvoir faire progresser, en fait, encore une fois, on en revient à la performance dont parlait Fix avant et la valeur pour la société, pour faire progresser la société. Et donc, les biais chez les hommes, il y a un biais qui est intéressant. Enfin, quand on faisait ce training, on nous a expliqué, voilà, est-ce que vous penseriez de la même manière ou vous réagiriez de la même manière si c'était votre fille, votre sœur? Est-ce que vous pensez que votre fille, votre sœur ne serait pas capable de faire ça ou aurait du mal à faire ça? Et en fait, ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, en fait, pourquoi elle ne serait pas capable de faire cette activité-là ou ce job-là. Et ça aide les managers eux-mêmes à reconsidérer leurs préjugés. Et pour les femmes, c'est la même chose, en fait. Et on va se dire, est-ce que votre fille ou alors votre fils ne pourrait pas faire ça? Très bien, essayez de vous repositionner. Et j'en reviens à ce que je disais un peu plus tôt. Sur le modèle, c'est un peu plus difficile pour les femmes de se projeter parce qu'elles n'ont pas obligatoirement. Enfin, chez Engie, c'est peut-être plus simple parce qu'on a beaucoup de femmes à des postes de direction, mais on va dire au middle management, il y en a un peu moins et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec ce programme 50-50. L'idée, c'est de rééquilibrer le middle management avec plus de femmes. Et donc, l'idée, c'est de voir, OK, vous n'arrivez pas à vous projeter dans ce rôle-là. Parce qu'il n'y a pas de femme qui fait ce rôle-là, mais en fait, vous en avez les capacités. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? J'en reviens sur la communication. C'est vraiment essayer d'adresser le sujet. Pourquoi est-ce que tu ne postules pas typiquement à cette position-là qui te permettrait de cocher cette case dans ta carrière, de faire peut-être une expérience à l'international au milieu de ta carrière? Pourquoi tu ne le ferais pas? Bon, parce que tu as une famille, certes, mais la famille peut éventuellement suivre. Il faut en discuter. C'est pas parce que tu as une famille que tu ne peux pas essayer de profiter de cette belle opportunité pour toi. Et donc, c'est en adressant le sujet et en essayant de casser les biais, c'est vraiment ça, break the bias, qu'on arrive à essayer d'améliorer, on va dire, cet objectif 50-50 et donc la parité dans nos équipes.
Merci, Jonathan. FX ?
Merci. Je pense que de mon côté, en fait, c'est de la transparence, c'est de l'ouverture, d'esprit, c'est de parler, d'avoir un langage de vérité avec les uns et les autres et surtout de créer un environnement de confiance, de trust, véritablement de confiance réciproque entre un manager et son équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est fait sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'on décide initialement et qui va se faire dans la minute. C'est quelque chose qu'on décide peut-être, mais en tout cas qui doit être, à mon avis, ancré dans la mentalité de la personne, du manager, et qui se diffuse au reste de l'équipe. Et donc, cette confiance aboutit au final à ce que l'individu, et donc une femme, se sente en confiance par rapport à ses capacités, qu'elle n'ait plus de doute par rapport à ses capacités, au contraire, elle se dise « the sky is the limit ». J'ai maintenant un potentiel à démontrer, je vais chercher à le démontrer, on me demande de la performance, j'ai une place qui n'est pas cantonnée à une boîte, je peux m'épanouir au-delà de ça. Donc c'est vraiment toute une culture qui dans certaines entreprises, qui est à créer, puisqu'elle n'est pas forcément là. Donc, chez Engie, je pense qu'on a la chance, en tout cas en majorité et dans la majorité des géographies, d'avoir cette culture. Il faut la promouvoir, elle est très importante, elle est également à développer pour certaines personnes. Je pense que le coaching qu'on donne et qu'on entretient régulièrement permet, à mon avis, de casser ce bias aussi bien au niveau masculin qu'au niveau féminin. Je pense que la confiance, ça repose sur ça. Ça repose sur la confiance, la transparence, la communication.
Alors, que recommanderiez-vous aux hommes qui souhaiteraient agir au profit du développement des carrières des femmes et qui souhaiteraient agir d'une manière générale au profit d'un monde professionnel plus égalitaire, qui ne saurait pas forcément comment faire? Quels seraient les conseils que vous recommanderiez?
Je pense que la première chose, c'est d'essayer. Je pense qu'il faut donner sa chance. Et je pense que, voilà, nous, j'ai pas beaucoup travaillé avec des femmes au début de ma carrière. C'était très masculin. Et puis, au fur et à mesure, travailler avec des femmes, ça a montré sa valeur, en fait. Et je veux juste donner un exemple, hein, mais dans la gestion de conflits, avoir des femmes dans l'équipe, c'est très, très utile. Très, très utile. Ça permet d'éviter les combats de coq, hein, comme on sait très bien le faire, et de prendre un peu de recul et de se focaliser sur le problème et pas sur les caractères, la fierté. Ces sujets-là qui sont, enfin, on va dire, les femmes avec qui j'ai travaillé en tout cas, sont vraiment secondaires et on se focalise sur le problème lui-même. Donc, je pense que, voilà, si je devais donner un conseil aux hommes qui souhaitaient faire grossir leurs équipes là-dedans, donnez-leur la chance. Ajoutez-les à vos équipes, vous verrez que ça apporte rapidement de la valeur. Après, une fois que c'est fait, je pense que pour faire grossir, parce qu'arriver à 50-50, c'est quand même un sacré challenge, il faut parfois repenser les jobs, repenser les postes et la description des postes, parce qu'on les a naturellement dessinés pour la personne qui était là avant, qui était souvent un homme, mais peut-être qu'on peut légèrement les adapter. Et en les adaptant légèrement, on aura beaucoup plus de femmes qui vont pouvoir postuler et être très pertinentes sur ce job-là. Et donc là, je pense que c'est, on va dire, sur le dernier mile, ce qui va nous permettre d'arriver proche de la parité.
Merci Jonathan. François-Xavier ?
Je dirais, soyez pragmatiques. Que cherchons-nous ? Des personnes qui ont une motivation, qui ont une certaine formation, qui ont une certaine envie, qui ont un certain background, une certaine expérience et qui ont envie d'obtenir des résultats. Donc, soyez pragmatiques. Quelle est la personne qui offre tous ces critères? Et réfléchissons. Par le passé, moi, je proviens d'une école d'ingénieurs, il y a quelques années de ça maintenant, quelques décennies, on va dire. Et à l'époque, on avait environ 20% de femmes qui sortaient les cohortes de cette école. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement le double. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que des femmes qui sortaient de cette école-là avaient d'autant plus l'envie de réussir. Et pourquoi ne pas justement leur donner la chance? Elles avaient très faim, si j'ose dire, de réussite et avaient bien entendu leur formation derrière qui garantissait une capacité à s'adapter au monde de l'entreprise et aux performances demandées par l'entreprise. Donc, je dirais au manager, soyez pragmatique, quelle est la personne qui va offrir tout ça et qui a cette motivation, cette envie de réussir, avec, bien entendu, ce que j'appellerais une certaine différence. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, dans l'optique de créer une équipe très complémentaire, cette différence est particulièrement utile.
Merci beaucoup à vous deux pour cet échange passionnant, pour vos éclairages qui nous permettent d'illustrer le rôle important des hommes en tant qu'alliés dans le développement de carrière des femmes, mais également d'une manière générale au profit d'un monde professionnel plus égalitaire. Un grand merci et un grand bravo à vous deux pour votre engagement. Et ce sont de beaux messages pour conclure cet épisode, pour rappeler l'importance du rôle que jouent les hommes dans un sujet aussi important et que les hommes font partie définitivement de l'équation du succès dans le développement de carrière des femmes, mais aussi pour contribuer au changement des mentalités. Merci encore FX, merci Jonathan pour votre participation dans cet épisode aujourd'hui.
Merci à vous Léla.
Merci Léla, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aidera à prendre le contrôle de ta carrière professionnelle sans t'essouffler. Et si tu souhaites soutenir le podcast Shape Your Career, rien de plus simple, il suffit de t'y abonner à partir de la plateforme de podcast de ton choix et à y laisser un commentaire et un avis 5 étoiles. Je te remercie chaleureusement et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.